19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce micro. Bonsoir à tous. Pour Ramal, l'actualité sportive en Afrique et dans le reste du monde, c'est dans un instant et ce sera avec Bagassi Koura. Je vous présente tout d'abord un bulletin d'information. En République centrafricaine, forte tension aujourd'hui à Bangui. Des tirs à l'arme lourde et légère ont secoué toute la journée le 3e arrondissement de la capitale. Plusieurs témoins parlent d'accrochages opposant des anti-balaka à des musulmans armés. Le point avec Idriss Fall.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les affrontements ont débuté hier après l'assassinat de 3 jeunes musulmans par des hommes armés assimilés à des anti-balaka. Ces jeunes participaient à un match de football pour la réconciliation dans un quartier du 3e arrondissement. Les tirs ont doublé d'intensité avec l'interposition des soldats burundais de la MISCA. Les forces françaises de Sangaris ont pris position à l'intersection des 3e et 5e arrondissements et un hélicoptère de combat a survolé le secteur. Ces violents affrontements ont semé la panique parmi les déplacés de l'aéroport. Selon Abakar Ousmane, porte-parole de la communauté musulmane de PK5, les heurts opposent des jeunes musulmans mécontents de PK5 à des anti-balaka des quartiers Boeing, Fatima, Katine et Boulata. Les responsables des anti-balaka se rejettent la responsabilité pour cette nouvelle montée de tension à Bangui.
Et l'ONU demande à Brazzaville de cesser immédiatement ses opérations d'expulsion de ressortissants de la République démocratique du Congo. Depuis le 4 avril, plus de 130 000 personnes ont été expulsées de la RDC, indique la mission des Nations Unies au Congo démocratique. Selon le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, et la représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits armés, Zainab Mongoura, ces expulsions seraient accompagnées de violations des droits humains, dont des violences sexuelles. Le gouvernement nigérien et le géant français du nucléaire Areva ont signé un accord renouvelant le contrat d'exploitation de 2 mines d'uranium. Areva a accepté qu'une loi minière de 2006 soit appliquée à la SOMAI et la COMINAC, les sociétés minières contrôlées partiellement par le groupe français. Ceci va permettre d'accroître la redevance minière et les deux entreprises seront exemptées de TVA. Les Égyptiens ont commencé le vote pour une élection présidentielle sans surprise. L'ancien chef de l'armée Abdel Fattah al-Sissi est assuré de remporter le scrutin face à un seul candidat, Hamdim Sabahi, un leader de gauche. L'épidémie d'Ebola a fait ses premières victimes en Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé dit 5 personnes sont mortes de fièvre hémorragique, dont un cas a été confirmé dans la zone de Koindou, située près de la ville guinéenne de Gekedou, où se sont déclarés les premiers cas de fièvre Ebola en Afrique de l'Ouest. Jusqu'ici, la maladie a tué 179 personnes en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Le nouveau président de l'Ukraine se nomme Petro Porochenko. Il est donné vainqueur de l'élection présidentielle avec 55% des voix, selon les résultats partiels publiés aujourd'hui. On en reparlera dans notre édition de 17h. Les partis d'extrême droite en Europe ont apporté, eux, une solide victoire dans plusieurs pays aux élections de dimanche. Jacques Aristide.
Oui, d'importants gains qualifiés de percée des eurosceptiques pour le Premier ministre français Manuel Valls. Il s'agit d'un séisme pour l'Europe et pour son pays. La France, où le Front National de Marine Le Pen est arrivé en tête.
Ce soir, je remercie les Français. Nous avions raison d'avoir confiance en eux. Le peuple souverain a parlé, haut et clair, comme dans tous les grands moments de son histoire.
Même scénario ailleurs, dont en Grande-Bretagne et au Danemark, où les partis nationalistes ont raflé la majorité des sièges au Parlement européen. Des formations d'extrême droite qui s'opposent généralement à l'immigration et cherchent à réduire les pouvoirs de l'Union européenne. En revanche, schéma diamétralement opposé dans certains autres pays, où c'est l'extrême gauche qui se taille la part du lion, comme en Grèce, où la coalition de gauche radicale est arrivée en tête, elle est fermement contre le plan d'austérité du gouvernement grec. Au total, 751 sièges étaient en jeu lors des scrutins d'hier dans 21 pays. Et en dépit du triomphe des candidats anti-Union européenne, les partis pro-UE conservent la majorité au Parlement européen.
L'Inde a officiellement un nouveau Premier ministre. Narendra Modi a prêté serment aujourd'hui à New Delhi en présence de plusieurs leaders et dignitaires mondiaux, dont le Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. C'est la première fois qu'un dirigeant pakistanais assiste à l'investiture de son homologue indien. Il est 19h05, 15h05 à Washington. C'est l'heure du sport avec Sportrama. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro de Sportrama, comme tous les lundis donc dans notre émission. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de Sportrama. Et nous attendons bien sûr vos appels en direct composés 001-202-619-3140. Avec nous ce soir, nos consultants. D'abord, Jules Valentin Gouet en ligne de Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Bagassi Courin, bonsoir à tous.
Nous avons Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Bagassi et bienvenue au Bénin.
Voilà, on a eu du mal à te joindre tout à l'heure. Et enfin, nous avons aussi Valdo Simo Yamba. Il est à Lubumbashi en RDC. Bonsoir Valdo.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de La Voix de l'Amérique.
Voilà, et donc bonsoir à tous. On commence donc par cette finale incroyable samedi de la Ligue des Champions. Elle a opposé les deux grands clubs de Madrid, donc le Real et l'Atlético. Mais quel match jusqu'à la 93e minute, c'est-à-dire pendant les arrêts de jeu. L'Atlético qui menait depuis la première mi-temps 1-0 avec la victoire en poche. Et puis il y a eu cette égalisation à 2 minutes seulement de la fin. Et finalement, on s'est retrouvé avec un score de 4-1 en faveur du Real. Jules, donc, on ne le dira jamais assez. Hein. Le match en football, le match n'est jamais fini tant qu'on n'a pas entendu le sifflet final.
Si, ça c'est une chose certaine, c'est jusqu'au dernier coup de sifflet. Et surtout quand on a affaire à une équipe qui en veut tellement. Le Real courait après une consécration, disons qu'il lui échappait depuis 2002. Donc vraiment, l'équipe avait tellement investi que jusque-là, on se demandait si après l'époque des Galactiques qui n'avaient rien donné, le Real allait prendre ce trophée. Mais là encore, c'est symptomatique de remarquer que c'est un défenseur dans le style du Real actuel, Sergio Ramos, qui a sorti le Real de l'eau avant qu'il n'ait son salut lors des prolongations.
Alors Valdo, j'imagine que vous aussi vous étiez accroché à votre téléviseur, hein, vous avez suivi le match et donc partir d'une défaite d'1-0 et se retrouver avec une victoire de 4-1, c'est quand même assez choquant pour les supporters de l'Atlético.
C'est la grande déception, s'il faut le dire comme ça, hein, côté Atlético Madrid, qui tenait également à voir ce premier trophée de cette coupe à la grande oreille, bien sûr, mais malheureusement, ils n'ont pas tenu. Atlético Madrid était venu juste pour jouer les 90 minutes. Ils n'avaient certainement pas prévu les temps additionnels. Alors, c'est là où ils flanchent, parce que imaginez que Diego Simeone réclamait même, mais il disait que c'était des trop, ces 5 minutes de temps additionnel. Donc, son équipe n'était pas prête physiquement, alors que Real Madrid, psychologiquement, était au point et avait un Sergio Ramos, toujours dans son style. Quand le Real ne va pas, c'est Sergio Ramos qui sonne la révolte. Regardez le match de demi-finale contre le Bayern Munich, c'est toujours Sergio Ramos qui a sonné la révolte. C'est lui la clé. Alors que c'est une clé qui joue à la défense difficile, les Colchoneros ont bien réussi à mettre en mal la ligne offensive de la Casablanca, mais malheureusement c'est un défenseur qui vient sonner la révolte et à ces instants-là, si vous encaissez un but, certes vous avez le moral bas et l'équipe qui égalise a certainement une certaine
diplomatie
psychologique. Voilà, la prolongation certes ne pouvait que tourner en faveur du Real Madrid, mais l'homme clé c'est aussi Carlo Ancelotti qui a réussi à calmer les vestiaires, ça a calmé, il n'a 10 mots pas de déclaration fâcheuse. Il est resté calme jusqu'à mener ce Real Madrid à la décima, comme il le voulait, bien sûr.
Voilà, et Carlo Ancelotti qui est secondé donc par un certain Zizou. Élisée, vous venez d'entendre Jules, hein, il a parlé de Sergio Ramos et Valdo aussi vient de le confirmer. Sergio Ramos, à votre avis, c'était le joueur du match?
Oui, bien sûr. Sergio Ramos a été le joueur du match et je le disais, c'est symptomatique parce que l'entraîneur du Real actuel, Ancelotti, est un entraîneur qui soigne d'abord la défense avant l'attaque et qui mise sur la contre-attaque. Et généralement aussi, c'est un calculateur qui sait que tout peut se jouer sur les coups de pied arrêtés ou les montées des défenseurs. Ça a été le cas et Ramos a fait la différence comme il l'a fait aussi en début finale.
Ouais. Alors, Élisée, on a aussi parlé de Di Maria. Hein. Certains disent que Sergio Ramos et Di Maria étaient les deux grands joueurs de la soirée.
Oui, bien évidemment. Déjà, dès l'entame de cette explication, nous avons vu Di Maria. Hein. Je vais repartir un peu en arrière. Bagassi pourra vous dire que dès le début de cette saison, Di Maria pouvait partir. Et le joueur a refusé. Il a dit qu'il va honorer son engagement. Et là, il est resté. Carlo Ancelotti, qui l'a reconverti au milieu de terrain, il a fait une saison remarquable. C'est vrai qu'on doit ce succès à un certain Sergio Ramos qui a égalisé. Mais n'oublions pas l'entraîneur Carlo Ancelotti qui a bénéficié d'un travail abattu par José Mourinho. Et là, c'est un entraîneur d'expérience avec son sang-froid qui a dû conduire une équipe, un groupe, hein, qui a fait preuve de professionnalisme. À aucun instant, ce groupe a douté hein, face à cette équipe d'Atlético Madrid, même jusqu'à la 94e minute au moment où Sergio Ramos égalisait. Eh bien, c'est un groupe qui est resté professionnel avec un Zinedine Zidane hein, adjoint à Carlo Ancelotti qui a juste trouvé les mots justes hein, pour voir galvaniser ses joueurs. C'est dit que c'est une finale très importante. Hein. C'est lors de la finale Liverpool-Milan c'est qu'on a vu un match à rebondissement. Et là, Atlético Madrid, Real Madrid aussi nous a laissé vraiment du spectacle. Et là, il faut féliciter les deux équipes.
Oui, et Valdo, comme le dit Élisée, hein, cette finale était à la hauteur des attentes. Hein.
Oui, c'est une finale qui était à la hauteur des attentes, il faut le dire comme ça, parce qu'Atlético Madrid, on voulait bien à cette coupe, le Real Madrid qui courait derrière ses 10e titres, il y avait des quoi, on a vu un parcours, une saison quasi parfaite de l'Atlético Madrid, avec notamment le championnat, il fallait bien faire le doublé, le Real Madrid qui avait déjà la Coupe du Roi, certes, il devait quand même se départager avec la Ligue des Champions, donc voilà ce qui a bien sûr mis de l'engouement, de l'engagement, des parties d'autres, et bien il y avait également un duel entre les deux entraîneurs, certes, l'expérience peut-être de Carlo Ancelotti, l'Italien, comme l'a dit, hein, qui a bien su mettre en place sa bonne défense et joue avec sa ligne offensive. C'est un Italien, les Catenaccio n'est pas encore mort, la preuve avec ce Real Madrid là qui sait bien se défendre, même s'il prend un but, il sait se remettre pour aller chercher à inquiéter l'adversaire. Donc la finale a tenu toutes ses promesses. Toutefois, le 10e titre aurait toujours été Madrid, même si Atlético l'a remporté, ça aurait été 9+1, le 9 du Real plus le 1 de l'Atlético, ça aurait fait 10 titres pour la ville de Madrid. La coupe était déjà quasi madrilène, mais c'est plutôt le Real Madrid qui confirme avec un 10e titre et sa suprématie sur l'Europe et sur le football au niveau des interclubs de l'UEFA.
Oui, il faut le dire, malgré quelques escarmouches, on a eu droit à du très 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 beau football. Voilà, ce qui ne va pas nous faire oublier ce qui s'est passé sur le continent chez nous en Afrique. D'abord, la CAN des juniors. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Junior Sénégal 2015, les Aiglons du Mali ont été battus 2-0 à domicile en match retour par les Étalons juniors du Burkina Faso sur un score donc très surprenant donc de 2-0. Il faut dire que lors du match aller, les Aiglons maliens avaient laminé les Étalons 3-0, un score qui leur permet aujourd'hui aux Maliens donc de continuer la compétition. Peut-être, Jules, le Mali devrait faire beaucoup attention hein, parce que ce n'est pas une équipe aussi solide qu'il nous l'a laissé croire.
Oui, mais il faut d'abord voir que le scénario du match aller était assez évocateur. Le Mali contrait, en fait, dans le style de l'équipe du Mali, c'était plutôt de
de remonter, de contrer, d'empêcher les joueurs burkinabés qui s'étaient installés dans leur camp de réaliser et eux, ils repartaient en contre. Donc, il fallait s'attendre que, étant obligés de jouer à domicile, qu'ils puissent ouvrir des pistes aux joueurs du Burkina qui me semblent techniquement un peu mieux armés. Donc, ce n'est pas surprenant.
Et vous, Élisée, comment vous avez vu cette défaite malienne à Bamako?
Oh, voilà. Déjà, au match aller, hein, le Mali a sorti le grand jeu. Raison pour laquelle, eh bien, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que les Maliens ont sous-estimé les Burkinabés? Et là, c'est dire que le Mali n'a pas véritablement, j'allais dire, haussé le niveau de son jeu pour pouvoir battre de nouveau ces Burkinabés. Mais on peut tirer chapeau à ces Burkinabés qui ont pu, en tout cas, réussir à faire parler d'eux du côté de Bamako. Mais cela n'a pas suffi pour se qualifier pour le tour suivant.
Et puis, notons cette surprenante élimination des Léopards de la RDC par la petite équipe du Malawi. Les Léopards, auteurs d'un match nul, un but partout à Blantyre au match aller, n'ont pas su en profiter à domicile. Valdo, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Ce qui n'a pas marché, c'est que la RDC a été rattrapée par l'impréparation. Cette équipe n'a pas vraiment été préparée, s'il faut le dire comme ça. C'était un regroupement. La RDC n'a pas encore une équipe. C'était un regroupement avec quelques joueurs venus de l'étranger, notamment de la France et ceux de la République démocratique du Congo à quelques jours. Certes, déjà les matchs allés avaient donné un peu du goût parce qu'ils allaient chercher un match nul en déplacement dans des conditions dont on connaît cette équipe. Mais malheureusement, à Kinshasa, cette équipe a été rattrapée par sa vraie réalité. C'est la réalité actuelle du football de la République démocratique du Congo, s'il faut le dire comme ça à ces stages-là. On néglige un peu la formation des équipes d'âge. Voilà, ça paye cash. On a senti une équipe malawite qui est venue chercher la victoire, qui a joué à l'aise sur l'ABG du stade Tata Raphaël. C'est comme si c'était le joueur de la démocratie du Congo qui a porté les maillots de Malawi. Malheureusement, c'est une élimination qui est faite à la maison. Donc, question de donner une leçon à la République démocratique du Congo de bien faire les choses. Quand, qui veut aller loin, ménage sa monture. La RDC doit désormais bien se préparer pour espérer poursuivre, aller très loin lors des éliminatoires des équipes d'âge. C'est très, très important. C'est les fondements des équipes A sur le continent, vous le savez.
Voilà, donc on parlait donc de ce match Congo-Kinshasa Junior contre le Malawi, 2-0 donc au Tata Raphaël de Kinshasa. Et puis le Gabon qui a battu le Rwanda, 1-0, et se qualifie donc pour le troisième et dernier tour. Il faut rappeler qu'au match aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un score vierge 0-0. On écoute Rigobert Nzamba, le coach gabonais.
Mais c'est normal, elle peut être difficile du moment où cette équipe revient de la Coupe du Monde. Au contraire, moi je félicite d'abord mes jeunes, mais ce qui est sûr, le plus important, c'était de passer ce tour. Et je l'ai promis depuis l'Angola, depuis le Rwanda, j'avais dit au Rwanda, vous étiez quoi présent. J'ai dit que je passerai, le plus important sur passer, mais c'est ce que le peuple gabonais est content. Nous, on attend maintenant le troisième tour.
Alors, on a constaté qu'au niveau offensif, vous avez éprouvé des difficultés tout au long du match.
C'est normal, comme vous le savez, j'ai fait appel aux joueurs, mais il y a des dirigeants qui ne veulent pas que ces joueurs arrivent. Vous voulez qu'on fasse quoi? J'ai fait avec les locaux, et avec les locaux, ben voilà, ça a marché. Le plus important, c'était ça. J'espère que les dirigeants gabonais, les autorités comprendront maintenant. Lorsqu'un entraîneur veut le joueur, ils n'ont qu'à donner les joueurs à temps, ou bien ils n'ont qu'à libérer les joueurs, c'est des Gabonais. Pourquoi priver les jeunes de ne pas jouer une CAN? Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons notre chemin avec ces jeunes, et j'irai jusqu'à la CAN.
Alors, dernier tour, ce sera probablement le Ghana.
Bien sûr, c'est le Ghana, mais que le Ghana sache que le Gabon s'y arrive. Le Ghana, ce n'est pas un petit morceau. Le Gabon aussi n'est pas un petit morceau.
Voilà, donc le match des non-petits morceaux, c'était Rigobert Nzamba, le coach donc, du Gabon. Jules Valentin, vous l'avez entendu, est-ce que vous comprenez, vous pouvez nous expliquer davantage ce qui le problème qu'il expliquait là?
Oui, bien sûr. Il faut dire que pourtant, il ne s'agit pas de l'équipe Fanion. Nos fédérations ne se pressent pas pour donner les conditions les plus favorables aux entraîneurs. Et moi, je me dirais même que pour un football comme le football gabonais, qui est assez avancé quand même au niveau de la formation, on peut se contenter de faire une équipe à partir des joueurs locaux. Et les deux sélections actuelles, qui sont passées ces dernières années et qui ont fait leur preuve au niveau des plus grands, sont venus des joueurs locaux ou alors sont majoritairement animés par des joueurs locaux. Donc je crois que l'entraîneur s'est expliqué, il y a des difficultés effectivement, surtout lors des matchs des Jeux.
Alors, et maintenant on va écouter l'entraîneur français du Rwanda, il s'agit de Richard Tardy.
Comme à Kigali, il y a encore eu deux mi-temps très différentes. La première où les deux équipes n'ont pas joué au football, notamment la mienne, on avait peut-être peur de prendre un but. On a joué trop long, on n'a pas cherché à jouer au football, à garder le ballon, je l'ai regretté. Et puis on a réagi quand on a encaissé ce but sur un coup franc très litigieux. Après le Rwanda a commencé à jouer au football. Malheureusement il y a eu ce carton rouge que je trouve très sévère parce que j'estime que le joueur, d'ailleurs, à la vitesse à laquelle il s'est relevé, je ne pense pas qu'il y avait une faute très grave. Ça nous a handicapés, mais mes joueurs n'ont pas baissé les bras. Malgré qu'on ait joué à 10, on a essayé d'aller chercher ce but qui nous aurait qualifié. On n'y est pas arrivé. Donc on a de la déception parce que la qualification était possible. Mais pour se qualifier, il faut jouer deux mi-temps.
Voilà, pour se qualifier, il faut jouer deux mi-temps. Parole donc de Richard Tardy, l'entraîneur des juniors du Rwanda. Les autres résultats, la Libye qui bat la Tunisie 3-1, le Ghana bat le Sierra Leone, la Sierra Leone 2-1, le Gabon donc, dont on vient de parler qui a battu donc, le Rwanda 1-0, le Nigeria écrase la Tanzanie 4-1, l'Égypte bat le Soudan 2-0, le Togo s'en sort victorieux donc, face au Maroc 4-2, l'Afrique du Sud bat l'Éthiopie 1-0. Le Cameroun, le Burundi, donc ce match a été reporté. La Côte d'Ivoire qui bat le Libéria 2-0. Le Bénin bat le Congo Brazzaville, donc 2-1. Et le Mozambique s'est fait battre par la Zambie 2-0. Enfin, le Lesotho qui bat l'Angola 1-0. Pour revenir sur ces scores, donc deux résultats qui retiennent notre attention. C'est d'abord, Élisée, la Libye qui élimine la Tunisie et le Togo qui sort le Maroc.
Oui, Bagazi Koura, il faut dire que la Libye, c'est vrai, à cause des problèmes politiques qui minent ce pays, malgré ce genre de problèmes, les Libyens ont du football dans les jambes. Peut-on dire que c'est l'année libyenne, même en club avec Al Ahly Benghazi qui est en train de réussir en Ligue des Champions. Il faut dire que la sélection libyenne qui a remporté le Tchad en Afrique du Sud, depuis certains moments, ces Libyens sont en train d'impressionner sur le continent. Côté togolais, on ne s'attendait pas du tout à ce score.
Ça, c'est une vraie surprise.
On a vu ce qui s'est passé. Et si déjà les Togolais ont marqué beaucoup de buts
4-2 au match retour.
C'est-à-dire qu'ils ont produit un très bon football.
Ouais. Merci, Élisée. Et Jules, vous voulez dire un mot là-dessus?
Non, mais je suis d'accord avec Élisée. Mais je peux aussi ajouter que ici nous ne sommes pas au niveau des équipes fanions, c'est les équipes de jeunes. Donc, le plus souvent, leurs résultats dépendent aussi du cru qu'on a. Bon, il y a des périodes où certains pays ont des joueurs de qualité parce que ici, la qualité individuelle du joueur est très importante, notamment pour la créativité dans le jeu offensif. Donc, je crois que là aussi, on aura toujours de telles surprises de voir certains pays cotés être éliminés par des pays qui paraissaient un peu moins cotés.
Il y avait aussi la Ligue des Champions ce week-end, notamment la phase de poule aux deuxième journée. Dans le groupe A, le Zamalek d'Égypte a battu Al-Hilal Omdurman du Soudan 2-1. Et en RDC, le choc entre le TP Mazembe et l'AS Vita Club de Kinshasa a tourné à l'avantage des Corbeaux hier dimanche à Kalamondo, à Lumumbashi, donc 1-0. Et donc vous étiez là-bas, Valdo, vous avez suivi la rencontre. Est-ce que le niveau y était? Pas trop de tension sur le terrain?
C'était un match d'un grand niveau. Les deux équipes nous ont présenté du beau football.
quoi que Mazembe l'ait emporté sur le score d'un but à zéro, c'était serré entre les deux équipes. Vettel qui a réussi à contenir d'abord les assauts avec un son Loukong, le gardien de l'Est Club des grands jours, qui a réussi à enrayer pas mal des occasions des Badiangona.
Alors,
la seconde mi-temps, ça n'a vraiment pas été. C'est sur un coup de billard, un corner, que bon, Alice Mata va loger les pieds au fond à la 72e minute. L'unique but d'ailleurs de cette rencontre, ce qui conclut d'ailleurs cette opposition avec une fois de plus, une victoire du tout-puissant Gaber Mazembe. C'est une première en Ligue des Champions. Les deux équipes de la République démocratique du Congo qui jouaient ces matchs au sommet. Mazembe voulait bien avoir cette victoire. Rappelez-vous, cette équipe s'était inclinée en déplacement, battue lors de la première journée par Al Ahly du Soudan, 1-0. Mazembe en voulait bien à ces trois précieux points pour également se relancer dans ses groupes. Connaissant déjà la défaite, la victoire de Zamalek, il valait bien la peine de gagner à domicile et face à l'AS Club, cette équipe, rappelez-vous, hein, en championnat national, il y a eu des incidents à Kinshasa lors de la dernière journée. Il fallait bien arranger les choses à Lubumbashi, laisser le football primer, le fair play. Et ce qui a été fait notamment par les organisateurs de la Confédération africaine de football, la CAF, qui a d'ailleurs salué l'organisation de cette rencontre après les incidents de Kinshasa, qui a coûté la vie à 15 personnes. Donc c'était un match placé au risque, même un match qui a fini très très bien, ouais, sur une très très bonne note de la Confédération africaine de football. Donc Mazembe qui se relance, mais rien n'est encore perdu pour les clubs de, oui, Kinshasa, parce que les quatre clubs de ce pool A se tiennent tous à 3 points. Donc la troisième journée sera très très décisive pour les équipes qui vont peut-être se déplacer, hein, parce que ceux qui vont recevoir, c'est la logique qui veut à ce que les, oui, équipes depuis le début.
Alors là on va écouter, vous restez en ligne, on va écouter Frédéric Kitigay, le manager du tout puissant Mazembe. Pour lui, les Corbeaux devaient forcément gagner ce match.
C'était un must-win game parce que l'équipe de Mazembe, ayant perdu la première sortie au Soudan, devait absolument gagner cette rencontre à domicile. Et au stade où nous sommes, il faut absolument bien négocier toutes les rencontres à domicile et chercher d'aller grignoter quelques points à l'extérieur. Donc, c'est un résultat qui nous satisfait énormément.
Qu'est-ce que vous avez dû changer? Parce qu'à l'aller, ça n'a pas bien marché, hein?
Oui, à l'aller à l'extérieur, les joueurs n'ont pas pris le match avec beaucoup de sérieux. L'entraîneur Carteron lui-même a déclaré que l'équipe a joué à 30% de ses ressources. C'est seulement qu'après avoir encaissé le but et dans les 30 dernières minutes du match que Mazembe a sorti son grand jeu, mais c'était déjà tard pour combler le retard. Les matchs ne se ressemblent pas contre un club fin derby quasiment local. Nous les avons battus il y a une semaine chez eux à Kinshasa. Donc, ils avaient une revanche à prendre et peu de considérations sur le plan national, avec surtout ces morts d'hommes, 15 personnes qui ont perdu la vie à Kinshasa. On a commencé par une minute de silence, donc l'environnement n'était pas le même. Mais une chose est sûre, Mazembe a pris à cœur ce jeu et on a énormément raté dans les premiers quarts d'heure de jeu.
Voilà, c'était Frédéric Kitigay, manager du Tout-Puissant. Déception, bien sûr, au côté quinois, où on dénonce un certain arbitrage. On écoute Florent Kibenge, il est l'entraîneur de l'AS Vita Club.
Donc, ce qui n'a pas marché sur un plan technique, c'est qu'on aurait dû conserver un petit peu plus ce ballon. Ce qui n'a pas marché non plus, c'est que nos actions offensives ont tout de suite été étouffées dans l'œuf par un arbitrage plus que complaisant. Toutes nos actions, on avait décidé d'attendre Mazembe et pouvoir les contrer. Et c'est ce qu'on a bien réussi. Mais chaque fois qu'on sortait, même sans être hors jeu, l'arbitre nous siffle hors jeu. Ce sont des réalités. Et ça, je peux le dire. D'habitude, je ne parle pas d'arbitrage. Mais là-dessus, je pense qu'ils nous ont tué notre match.
Voilà, c'était Florent Kibenge, entraîneur de l'AS Vita Club. Donc, à l'issue de cette deuxième journée, comme le disait Valdo, les quatre équipes sont à 3 points. Chacune dans ce groupe A. Et dans le groupe B, Al Ahly Benghazi de Libye a battu donc l'AS Tunis de Tunisie, 3-2. L'AS Sétif d'Algérie et le CS Sfaxien se sont séparés sur un score d'un but partout. Voilà. En Coupe de la Confédération, la deuxième journée des phases de poule a également eu lieu ce week-end dans le groupe A. La SEC Mimosa d'Abidjan a fait un score vierge avec l'AC Léopard de Dolouzi, les Congolais donc. Le Coton Sport a battu l'AS Real du Mali 2-1 dans ce groupe classement. Le Coton Sport a 3 points en tête, suivi de l'ASEC Mimosa. Dans le groupe B, le Nkana FC de Zambie a fait match nul avec le Sewe Sport de San Pedro, un but partout également entre l'AS Sahel de Tunisie et l'Al Ahly d'Égypte. Dans ce groupe, Al Ahly est en tête avec 4 points, suivi de l'AS Sahel 2 points. Voilà, on continue en football pour dire qu'à quelques semaines de la Coupe du Monde, le Ghana a renouvelé le contrat de son sélectionneur James Kwesi Appiah. Ce dernier en poste depuis avril 2012 a vu son contrat renouvelé pour 2 ans. C'est le premier entraîneur local à qualifier le Ghana pour une Coupe du Monde. Nous sommes pris par le temps et donc nous tirons donc à la fin donc de Sporama pour dire que ce soir, Indiana affronte Miami en NBA. Merci à nos correspondants sur le continent. Jules Valentin Gouet à Libreville au Gabon et Valdo Yama Simbo à Lubumbashi au Congo en RDC. Et donc notre ami à Boïkon au Bénin. Passez une bonne soirée et à lundi prochain.